Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
François Thurion, on se retrouve pour parler de nos oiseaux, hein, de nos oiseaux de Suisse et de la planète. On était dans une phase historique dans la première partie de cette émission. Est-ce qu'on peut dire que la grande révélation de ce début du 21e siècle, c'est que justement on a affaire à un problème global, vous l'expliquiez en fin de première partie, et que c'est pas juste arrêter un type de chasse, c'est pas juste protéger un oiseau, mais c'est se préoccuper des habitats, c'est se préoccuper de l'emprise que l'homme a de plus en plus sur toutes les terres, sur tous les coins de cette planète, et que on ne peut prendre le problème que globalement, finalement.
Oui, alors il faut prendre le problème globalement. Ça veut pas dire non plus qu'il faille pas s'engager sectoriellement pour améliorer la situation, parce que c'est finalement aussi plusieurs problèmes sectoriels qui s'additionnent les uns aux autres et qui font que la faune, la flore autour de nous souffre. Effectivement, il y a des enjeux qui sont vraiment importants et qui doivent être pris à minima par les nations, et puis bien sûr aussi par la communauté des nations. Et ça, c'est encore le grand défi qui reste à réaliser malgré les conventions. On sait qu'il y a une convention sur la biodiversité comme la convention sur le climat, hein. C'est parallèle. Les États s'engagent dans des conventions qui sont pas contraignantes. Il y a des objectifs d'essayer de protéger 30% des mers et des terres, enfin de les consacrer essentiellement à la nature. C'est 30%, c'est ce que les scientifiques nous disent. Il nous faudrait à peu près un tiers de la planète qui soit quand même préservé largement des atteintes pour qu'on arrive à éviter cette sixième extinction de masse.
On en est loin dans plein de domaines.
Non, bien entendu, et c'est très triste parce que encore une fois, c'est aussi l'avenir de l'homme, de l'espèce humaine qui se joue en direct sous nos yeux.
Comment y vont les oiseaux en Suisse?
Ben, ils vont mal, hein. Ils vont mal. On a 40% des espèces qui sont menacées de disparition, donc sur les fameuses listes rouges. On n'a pas d'autres pays autour de nous en Europe occidentale qui avons autant d'espèces menacées. Ça s'explique parce qu'on est un pays très urbanisé, on grignote le territoire un peu partout. On peut le voir d'ailleurs ici autour de cette réserve des Grangettes avec des centaines de nouveaux habitants qui doivent venir s'installer vraiment à quelques centaines de mètres de la réserve. On a aussi, hélas, une agriculture encore trop intensive, même si des progrès sont réalisés. On a
aussi un territoire petit qui ne permet pas, à part dans certains coins des Alpes, d'avoir de grandes zones... de préservation. Quoi.
Oui, mais on a quand même, on est en retard sur la plupart des pays voisins, puisque on est aussi en queue de peloton du nombre d'aires protégées, de surfaces d'aires protégées par rapport au territoire. La Slovénie, qui est un pays assez comparable à la Suisse, a trois fois plus d'espaces protégés ou de parcs nationaux. On en a toujours qu'un en Suisse. Mmh. Donc voilà, on a ces défis et BirdLife s'engage. Mais on se rend compte aussi que les politiques ne répondent pas à la hauteur de ces enjeux-là.
Il y a une votation au mois de septembre, on en dira un mot tout à l'heure. Hein. BirdLife s'engage pour cette votation sur la biodiversité. Ça sera le 22 septembre, je crois, la votation. Un mot d'abord sur aussi une notion que j'ai apprise, moi, à force de regarder des conférences ou autres, c'est on s'intéresse toujours aux espèces. Hein. Il y a les espèces menacées, vous venez de les citer. Et il y a la question des individus aussi. Les espèces masquent finalement les individus, parce que même dans les espèces qui ne sont pas menacées, les individus disparaissent en masse.
Oui, ben, je peux vous donner un exemple qui est très parlant. On avait ici dans toute la plaine, la basse plaine du Rhône, le Chablais vaudois, on avait à l'époque des populations d'alouettes des champs qui étaient très importantes, et ces alouettes participaient aussi à l'équilibre écologique de ces territoires agricole, et l'alouette, elle a quasiment disparu complètement de la plaine du Rhône. Donc c'est des oiseaux très fréquents autrefois qui deviennent vraiment, qui se sont beaucoup raréfiés. Donc on a perdu des populations entières de ces oiseaux. On pourrait citer aussi les hirondelles, d'autres espèces encore, et finalement c'est ça aussi qui préoccupe les scientifiques, c'est que avec la disparition de ces populations, et bien c'est le fonctionnement même des écosystèmes qui est remis en question. population et qui s'affaiblit. Quoi.
Alors j'ai dévoilé que j'étais né en 1970, quand on a mon âge et le vôtre du coup. On a connu quand on allait en vacances ou qu'on faisait un peu plus de 10 minutes de voiture, les pare-brises remplis d'insectes, de moustiques en été. C'est plus le cas aujourd'hui. La base du problème, c'est la disparition des insectes pour les oiseaux.
Alors c'est un des problèmes absolument sérieux et fondamentaux. Les insectes jouent dans les écosystèmes un rôle absolument fondamental. On n'a qu'à parler de la pollinisation, qui est peut-être le rôle le plus mis en évidence maintenant, parce que on se rend compte que avec ce déclin des populations d'insectes, on a un réel problème de pollinisation de nos plantes et cultures qui dépendent, il faut le rappeler, largement de ces insectes. Donc sans les insectes, c'est fini les pommes, c'est fini la plupart de nos fruits et légumes. Donc les oiseaux, la plupart mangent des insectes ou donnent des insectes à leurs petits au printemps. Et donc on a besoin d'avoir des conditions cadres, disons, qui soient favorables à nouveau aux insectes pour que toutes les chaînes alimentaires dont ils font partie puissent se restaurer.
Il y a les technosolutions aujourd'hui qui veulent remplacer les abeilles par des drones pour assurer la pollinisation. Ça fera évidemment pas l'affaire des oiseaux.
Ouais, non, j'y crois pas du tout. Et d'une part, j'y crois pas. Et en plus, effectivement, les oiseaux ont besoin vraiment de ces insectes. Et c'est aussi des régulateurs des populations d'insectes.
Il y a un dossier un peu médiatique, un peu symbolique. Enfin, vous allez me dire s'il est symbolique ou pas. D'ailleurs, c'est les chats. Hein. On parle beaucoup des chats comme... c'est un animal prédateur, évidemment, et qui, visiblement, tue beaucoup.
Oui, les chats constituent quand même un problème non négligeable, on va dire, dans des environnements urbains ou semi-urbains. On sait qu'il y en a même qui partent en forêt. La prédation des chats sur les oiseaux, mais sur toute la petite faune, est conséquente. Et voilà, là, c'est aussi un des problèmes. Il faut aussi que les gens soient sensibilisés à ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou on a besoin d'avoir un chat ou plusieurs chats dans une famille? Est-ce qu'on peut aussi garder son animal plutôt en appartement? Enfin, toutes ces questions-là méritent d'être discutées. C'est finalement des décisions individuelles.
Mais alors, quand ça arrive sur le tapis, ça fait un choc émotionnel, hein, parce que le rapport à l'animal domestique est un rapport d'amour de la nature. On veut aimer. Moi, j'ai mon petit chien qui est là. Alors, heureusement, il n'est pas concerné par cette conversation, mais voilà, ça fait quelque chose d'extrêmement émotionnel. Et au final, encore une fois, la responsabilité, ce n'est pas tellement les chats, c'est plutôt les humains qui fait qu'il y a une prolifération de chats, qui fait qu'il y a beaucoup trop de chats, en fait.
Oui, exactement. Il y a aussi en dehors de cette prédation, il y a aussi le fait que maintenant des chats domestiques se mettent à s'hybrider, à se croiser avec des chats sauvages, donc le vrai chat sauvage, chat forestier. Et donc on a aussi un problème génétique lié à la survie de ce chat sauvage. Donc voilà, c'est vrai qu'on doit, dans notre comportement individuel, on doit essayer de choisir les solutions qui sont les moins mauvaises, on va dire, pour notre environnement.
Avant de passer à ce que fait BirdLife, un mot sur le lobby politique. C'est une partie de ce que vous faites. Hein. J'ai dit que vous engagiez sur cette initiative sur la biodiversité. Je vous ai vu aussi signer la plupart des communiqués collectifs de défense des animaux sur la question du loup. Pourquoi ?
Oui, BirdLife est aussi engagé en lien avec la loi sur la chasse et son ordonnance, donc la loi fédérale. Là, on a un affaiblissement des dispositifs de protection et on se met à la velléité politique au niveau du Conseil fédéral. C'est maintenant de se mettre à vouloir réguler préventivement, c'est le terme officiel, des animaux qui sont normalement strictement protégés. Donc on a vraiment un paradoxe là.
Le loup tient la vedette pour son malheur, hein, mais il n'est pas le seul animal concerné.
Non,
c'est ça,
il n'est pas le seul. On a maintenant le castor qui est aussi dans le viseur. Et paradoxalement aussi, la Confédération est en train de se désengager de mesures de prévention des dégâts, notamment s'agissant du loup. On sait qu'on a pu le montrer, on a tous les chiffres qui étayent ça, que la protection des troupeaux fonctionne. On a beaucoup moins d'attaques de moutons sur les troupeaux protégés. chanter, c'est vraiment la voie à suivre. Et c'est complètement absurde de voir les autorités politiques fédérales renvoyer la patate de la prévention aux cantons. Les cantons font des choses, mais elles doivent être soutenues dans ces démarches. La responsabilité des espèces protégées au plan national, c'est celle de la Confédération, et donc c'est logique que la Confédération octroie des moyens pour, notamment pour ces chiens de protection, pour les clôtures, etc.
À part la solidarité entre associations de protection de l'environnement, encore une fois, vous co-signez avec ProNatura, avec le WWF, etc. Vous craignez aussi que cette nouvelle ordonnance puisse ouvrir la voie à ce qu'on puisse à nouveau tirer le gypaète, à ce qu'on puisse à nouveau tirer des oiseaux emblématiques pour le plaisir de la chasse.
Bah écoutez, on a une espèce de pression de certains milieux qui est complètement délirante, absurde, puisqu'il y a même maintenant une initiative Soferro qui a été lancée pour aussi réguler les aigles royaux, voilà, et d'autres espèces encore. Donc c'est vrai que c'est une inquiétude. BirdLife s'engage sur l'ensemble de la biodiversité, et les conditions cadres de la chasse, même si elles sont peut-être meilleures que dans certains autres pays, on a quand même, avec ce projet de régulation du loup, on en viendrait à tirer beaucoup plus de loups que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, et donc c'est quand même, on a quand même moyen de faire mener une politique plus intelligente et plus équilibrée dans un pays comme la Suisse.
Avec une convention qui s'appelle la Convention de Berne, hein, convention internationale.
Oui, c'est un peu paradoxal.
Hein. Ouais. Bon, un mot sur cette initiative de septembre. On va pas en faire la propagande, mais enfin, est-ce qu'elle permettrait à la Suisse, vous disiez, on n'est pas très bon hein, dans les réserves naturelles, notamment dans les couloirs de faune. Est-ce qu'elle permettrait de nous mettre un peu au niveau européen?
Alors, en tout cas, elle créerait de meilleures conditions cadres pour préserver la biodiversité. L'initiative demande d'une manière générale qu'on octroie suffisamment de moyens, de ressources et de surface à la biodiversité. C'est formulé de manière très générale. On est au niveau de la Constitution. Mais c'est clair que ça donnerait un signal pour en faire davantage, puisqu'encore une fois, notre pays est à la queue du peloton des pays européens, et que la nature, la biodiversité, c'est notre source de vie, et donc on doit s'engager résolument pour notre source de vie, et c'est pour ça que c'est important que la population puisse se mobiliser aussi pour soutenir ce texte.
Alors ça sera pour le mois de septembre, donc le 22 septembre. On arrive à la fin de cet entretien. Alors vous faites des recensements d'animaux aussi, enfin il y a tout un travail hein, de BirdLife sur tout le territoire de la Suisse, depuis la création d'ailleurs. Les recensements, c'est ancien déjà, cette préoccupation de savoir où en sont les espèces. Il y a aussi, on va terminer là-dessus, depuis le début des années 2000, un oiseau de l'année, hein, vous nommez chaque année un oiseau. Cette année,
alors cette année, c'est un petit oiseau d'eau, c'est le grèbe castagneux, qu'on peut d'ailleurs voir ici au Grand Jette, dans les roselières, à proximité des roselières. C'est souvent, les gens le confondent avec un poussin de canard, parce que c'est un tout petit oiseau d'eau, mais il est très différent des canards. Il plonge, ses petits sont sur son dos, il a les pattes bien implantées à l'arrière, elles sont lobées et non palmées. Donc c'est un mignon petit oiseau d'eau que j'invite.
Castagneux parce que châtaigne, hein.
Voilà, exactement, parce qu'il a les joues de la couleur de la châtaigne au printemps, et c'est un emblème aussi de nos zones humides. Et si on a des grèbes castagneux qui se reproduisent dans notre territoire, c'est dans les endroits justement où les zones humides ont pu être préservées, voire renaturées, et c'est un bel emblème pour s'engager pour recréer des zones humides sur notre territoire.
Voilà, du lombric à l'éléphant, tous les animaux finalement et leur santé sont aussi un baromètre de comment on peut vivre sur cette planète, hein. C'est un peu
exactement.
Merci à vous, François Thurion.
Merci à vous.